travaille au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole en cette fin de semaine. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est très élevé selon le dernier rapport de l'enquête mixte publiée par le ministère du Plan. Malgré une tendance sensible à la baisse entre 1995 et 2007, la mortalité des enfants affiche encore des niveaux très élevés aujourd'hui et place la RDC dans la catégorie des États à forte mortalité infantile. Le rapport mentionne aussi que cette tendance à la hausse est d'autant plus observée en milieu rural où le problème de respect du non-respect du calendrier de vaccination se pose avec acuité. Nous en parlons dans ce dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine avec comme question principale, que faut-il faire pour lutter contre cette mortalité très élevée en RDC et particulièrement en milieu rural? Composez le 081 890 63 15 ou encore le 081 890 43 39 pour intervenir en direct. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos commentaires à notre courriel pa@radiocapi.net et vous pouvez aussi nous déposer vos réactions sur notre page Facebook. Merci à Titine Poutou qui réalise cette émission. Elle est assistée par Lydie Kachala et Héritier Sidiakala assure la mise en onde de ce programme présenté et coordonné par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Les objectifs du millénaire pour le développement sont 8 objectifs à atteindre en 2015 qui répondent aux défis les plus importants du monde. Les OMD découlent des actions et cibles contenues dans la déclaration du millénaire adoptée par 189 nations et signée par 147 chefs d'État pendant les sommets du millénaire de septembre 2001. L'un des plus importants objectifs du millénaire pour le développement est de réduire la mortalité infantile et infanto-juvénile. Donc nous en parlons aujourd'hui pour savoir si aujourd'hui ces objectifs seront atteints d'ici 2015. Notre invité s'appelle Dr Eli Mukinda, qui est le coordonnateur santé chez l'ONG World Vision. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, le rapport, disons, mentionne aussi que cette tendance à la hausse est d'autant plus observée en milieu rural, où les problèmes de respect, de non-respect du calendrier de vaccination se posent avec acuité. Donc, quand on cherche les causes de la mortalité infantile, directement, ces causes sont nombreuses, mais d'aucuns parlent de non-respect aussi de calendrier vaccinal. Et surtout la faible couverture vaccinale à travers le pays et particulièrement en milieu rural.
Oui.
Voilà, docteur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, la question, est-ce que cela est vrai? C'est à tort que les gens pensent que la faible couverture vaccinale serait également la cause de mortalité infantile?
Je crois que la chose est correcte, elle est vraie. La couverture vaccinale qui est faible est l'un des facteurs qui conduit à la mortalité élevée chez les enfants de moins de 5 ans. Certes, le facteur vaccination n'est que un parmi tant d'autres, comme vous l'avez souligné, mais il joue un grand rôle. Et il comporte aussi une très grande pondération en termes de causes de mortalité. Cela est vrai.
Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une idée sur, ce qui constitue réellement les vaccins, donc après la naissance, entre 0 et 5 ans, et quels sont les vaccins indispensables pour les enfants?
Oui, nous avons un calendrier vaccinal et chaque pays a la latitude de s'inscrire à un schéma de calendrier vaccinal. Et en tant que RDC, notre gouvernement s'est alloué aussi un calendrier vaccinal national. qui reprend un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires et d'autres vaccins qui sont quelque peu optionnels. Alors, quand nous voyons notre calendrier vaccinal dans la République démocratique du Congo, nous avons des vaccins qui sont obligatoires, parmi lesquels vous avez à la naissance le BCG. C'est des vaccins de bacille et calmette, guérin. C'est le vaccin qu'on utilise pour prévenir de la tuberculose. Ensuite, toujours à la naissance, nous avons les vaccins oraux qu'on donne pour la polio. Et ensuite, on a trois doses de vaccins qu'on appelle les diptécoques. C'est le vaccin de la prévention contre la coqueluche, le tétanos et la diphtérie. Il se donne en trois doses. Et vers l'âge de 9 mois, nous avons deux vaccins essentiellement qui sont le vaccin de la rougeole, le VAR, et le vaccin de la fièvre jaune. Donc ceux-là sont les plus grands vaccins que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, avec un cycle de rappel en principe, comme pour le vaccin de tétanos, on devrait le reprendre tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, ensuite tous les 10 ans, une fois. Donc voilà un peu comment se présente le calendrier vaccinal en République.
Oui, vous avez dit, la faible couverture vaccinale n'est qu'une des causes de mortalité infantile. Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur d'autres causes, les plus importantes, au fait, qui mènent, qui occasionnent la mort des enfants de moins de 0 à 5 ans?
Oui, les autres causes sont tout aussi bien connues. Disons que chez les nouveau-nés, avant l'âge de 28 jours, nous avons des infections néonatales, parmi lesquelles il y a le tétanos, et puis d'autres causes comme les méningites qui viennent à la naissance. Et nous avons les causes liées à l'asphyxie à la naissance et la prématurité. Ça, c'est chez les nouveau-nés avant 28 jours d'âge. Et après cela, les autres causes sont liées surtout à la malaria. Nous avons la pneumonie, les diarrhées et la rougeole, ainsi que d'autres maladies évitables par la vaccination. Et en dernier lieu, nous avons le VIH-SIDA. Donc voilà un peu le gros des causes répertoriées un peu par ordre de d'importance et par ordre de d'âge.
Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, l'un des plus importants objectifs du millénaire pour le développement, c'est de réduire la mortalité infantile et infanto-juvénale. Mais d'aucuns pensent que la RDC ne pourra pas réaliser d'ici 2015 ces objectifs, notamment l'objectif lié à la réduction de la mortalité infantile.
Oui. Oui, je crois que le gouvernement a aussi reconnu qu'il n'est pas possible d'atteindre l'objectif du millénaire tel que stipulé et accepté à son origine, parce que il est question de réduire le taux de mortalité en dessous des 66, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 148. On ne voit pas comment dans les deux ans qui restent on va atteindre ce taux, mais nous restons quand même optimistes que c'est possible. Enfin, c'est possible de réduire, d'atteindre l'objectif du millénaire, mais ça ne tira pas à la date butoir de 2015. Donc, probablement que nous devons nous donner encore un certain temps, parce que maintenant, on est en train de penser, négocier, comment on pourrait avoir une autre date butoir où on peut atteindre la cible qui était prévue pour 2015. Mais nous pensons que la chose est faisable avec la volonté, une grande volonté politique et un engagement de tous, parce que les autres pays qui nous accompagnaient dans cette catégorie des pays à mortalité, il y en a deux qui sont sortis de ce lot à cause d'une grande volonté, c'est l'Inde et l'Éthiopie, qui ne sont plus des pays à forte mortalité, alors que au moment où on signait les accords et les conventions pour l'atteinte des objectifs, l'Inde et l'Éthiopie étaient au-dessus de la RDC. Mais pour le moment, ils ont pu sortir du lot et ils sont en train vraisemblablement d'atteindre les objectifs du millénaire pour eux.
Oui, docteur, le milieu rural pour certains aujourd'hui constitue une grande pesanteur par rapport à la question qui fait qu'aujourd'hui qu'on n'arrive pas réellement à faire quoi que ce soit ou à amorcer des actions les plus efficaces pour atteindre réellement ces objectifs du millénaire parce que en milieu rural il se pose énormément non seulement le problème d'accès à la vaccination, mais aussi d'autres problèmes liés et qui constituent notamment un frein pour disons, cette approche ou cet exercice de pouvoir amener la réduction de cette mortalité infantile.
Oui, les milieux ruraux représentent effectivement le nœud à dénouer parce que pour regarder les chiffres de mortalité, j'ai cité, c'était 158, la mortalité infantile. Eh ben, dans les 158, quand nous prenons les villes, dans les milieux citadins, dans les villes, on est presque autour de 108, 110, alors que le gros est porté par les milieux ruraux qui ont presque 179 à 180 décès pour 1000 enfants vivants. Donc les milieux ruraux, effectivement, regorgent la plus grande part de la mortalité en RDC. Et comme vous l'avez dit, il y a l'accès, la présence même des infrastructures et les équipements. Mais au-delà de tout ça, il y a les comportements qui sont pas de nature à favoriser une survie de l'enfant. Donc le manque d'informations, le manque de la bonne information est aussi pour beaucoup dans le poids de la mortalité dans les milieux ruraux.
Alors que faut-il faire pour lutter contre cette mortalité très élevée, particulièrement en milieu ruraux?
Oui, il y a une chose, on doit commencer par donner la bonne information. Parce que il y a, comme nous disons, au fait, la grande part des décès que nous sommes en train d'enregistrer, ce sont des décès dus à des causes évitables. Donc, il est possible d'éviter ces décès, et généralement en faisant des toutes petites choses, des gestes simples qui ne coûtent pas une fortune, mais dont l'impact est tout à fait avéré. Alors, il faudrait que nous continuions à éduquer les communautés en milieu rural, à leur donner la bonne information. Nous disons qu'il y a des choses très simples, l'usage de la moustiquaire, qui réduit fortement la mortalité. La vaccination dont on parlait même, c'est quelque chose qui réduit la mortalité. Et je dis l'autre fois que quand vous prenez seulement l'allaitement maternel lui-même, l'allaitement maternel exclusif, quand il est conduit comme il se doit, selon les règles, eh ben on peut réduire la mortalité de 13%. Le lavage des mains au savon, on peut réduire la mortalité de 7%. Donc, c'est dit que en donnant l'information qu'il faut et en aidant les communautés à changer de comportement à partir des ménages, il est possible que nous réduisions sensiblement cette mortalité parce qu'il y a une grande part du comportement. Évidemment, au-delà de cela, nous devons continuer à plaider pour que les centres de santé soient équipés comme il se doit et que le personnel qui travaille dans les centres de santé ait aussi la compétence voulue pour être à la hauteur des tâches qu'ils attendent et qu'ils soient motivés. Mais il y a une très grande part qui revient au changement de comportement au niveau des ménages.
081-890-43-39 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons suivi notre invité, Mathieu, vous nous rejoignez, et Maître Ngandou, vous êtes également avec nous. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour, monsieur Gère, c'est le prophète Mathieu Kanong.
Voilà, prophète Mathieu, vous avez la parole après avoir suivi notre invité qui a évoqué également plusieurs causes et a insisté pour arriver à lutter contre cette mortalité très élevée en milieu rural. Il faudrait d'abord donner la bonne information. Que dites-vous, Mathieu?
Bon, en ce qui me concerne, ces derniers temps, nous ne savons pas pourquoi l'État congolais ne s'occupe pas de prendre en charge les enfants. Surtout ce dont leurs parents sont tués dans la guerre, surtout à l'est du pays où la situation se dégrade de jour au jour. Sans oublier plutôt ceux qui sont tués par la maladie du sida, le sida. D'après nos recherches, selon l'OMS, le paludisme tue plus d'un million d'enfants chaque année, c'est-à-dire 2800 enfants par jour. Une maladie la plus mortelle, 30% d'enfants, s'il vous plaît, qui sont tués dans notre pays. Sans oublier les diarrhées. À cela, nous remarquons encore l'autre maladie classée deuxième pour la mortalité chez l'enfant, la pneumonie, les choléras, la rougeole. Surtout selon l'OMS, notre pays figure parmi les 22 pays les plus touchés dans le monde en ce qui concerne la tuberculose, en quatrième en Afrique. Voir aussi la faim qui tue à chaque jour qui passe, et encore la malnutrition où la RDC présente un peu le plus élevé dans le monde. Tout ça provoqué par un mauvais système d'assainissement. La crise financière, mais insalubre qui est l'ennemi numéro un des maladies cardiovasculaires. Mais je ne sais pas pourquoi. Gère, il y a toujours la prise en charge et le manque d'une politique sanitaire dans notre pays. Il y a marre de l'autorité de l'État. C'est ça.
Voilà, donc Mathieu, nous retenons que pour arriver à réduire le taux de mortalité qui est très élevé en RDC, et particulièrement en milieu rural, il faut vraiment une prise en charge très correcte.
Une prise en charge par l'État congolais.
Voilà, une prise en charge totale par l'État congolais, parce que selon vous, c'est vrai, des personnes de bonne volonté, notamment des ONG, et aussi, voilà, d'autres organismes travaillent dans ce sens-là, de pouvoir aussi aider à réduire la mortalité, réduire les taux de mortalité très élevés en RDC, mais vous demanderez qu'il y ait vraiment une prise en charge totale du côté du gouvernement. Merci Mathieu. Merci. Maître Ngandou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maître.
Bonjour. Laissez-moi d'abord préciser que je suis licencié en droit juriste, mais je ne suis pas encore maître.
Ben voilà, merci Ngandou, vous êtes avec nous, vous avez la parole.
J'allais dire, j'ai plusieurs propositions pour réduire ces taux-là que vous êtes en train de faire à l'ISO actuellement. Et ces propositions vont aller de la planification des naissances, la maternité sans risque, l'allaitement maternel, la croissance, la vaccination, la diarrhée, la toux et les rhumes, l'hygiène, la malaria ainsi que le sida. Monsieur le journaliste, si j'ai bien suivi le docteur qui vient d'intervenir là, il a insisté sur le point qui concerne la communication, l'information que notre population n'en a pas, qui fait des fois que les choses qui peuvent être évitées, non? Et voilà les conséquences. J'ai dit, pour en soi améliorer la santé, entre autres, de nos femmes et nos enfants, il faut, à mon avis, éviter les grossesses, d'abord éviter les grossesses avant l'âge des 18 ans, mais aussi espacer les naissances d'au moins 10 ans, limiter à 4 le nombre total de grossesses. Ça va améliorer nettement, à mon avis, la santé de nos mamans ainsi que nos enfants. Mais aussi, il faut à tout moment, lorsqu'on est grosse, aller, disons, consulter l'agent de santé pour les soins prénatal. C'est ce qui ne se passe pas souvent. Et voilà la
conséquence. Oui, s'il vous plaît, Ngandou. Donc, quand vous parlez de limiter les naissances à 4, vous faites allusion à quoi? Qu'il y ait une loi qui va demander à ce que les Congolais ne puissent pas dépasser 4 enfants, donc pour question de maternité, de santé, de reproduction.
Non, il est dit que, normalement, l'enfant qui exagère, donc qui va au-delà des 4 grossesses, a des problèmes de santé. Demandez aux médecins, ils vont vous dire ça. Il est toujours conseillé de commencer à tomber enceinte, de 18 ans jusqu'à 45 ans, voilà cet âge-là, mais limiter ce nombre-là à 4 grossesses, ça va aider la maman dans les cas d'espèce.
Oui. Voilà, donc
l'idée aussi, lorsqu'on est, on est enceinte, il faut à tout moment chercher à l'agence de santé pour les soins
prénatales
pour la maman. Et aussi, au moment de l'accouchement, à mon avis, il faut qu'il y ait une personne qualifiée soit là, parce que des fois, vous allez constater que ce sont des gens, ils ne sont pas qualifiés, et ça peut causer aussi la mort. Il y a aussi, lorsque l'enfant est né, normalement, c'est le lait maternel qui est la nourriture préférée. Et à part ça, lorsque l'enfant atteint 4 à 6 mois, on peut ajouter des aliments supplémentaires. Ça va
oui, Gandou, là vous rejoignez totalement notre invité qui parlait tout à l'heure de cette bonne information qui manque chez plusieurs personnes.
C'est pas ça que je suis en train de dire, que laissez-moi, parce qu'il y a plusieurs propositions. À mon avis, quand je vais donner ça, étant donné que
Il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent aussi. Il y a beaucoup d'auditeurs qui attendent d'intervenir. Si vous pouvez
peut-être... Je peux le faire pendant 3 minutes, à mon avis.
Non, 3 minutes, c'est beaucoup. On peut vous donner juste 1 minute 30 secondes. Allez-y.
Oui, disons, lorsque l'enfant a 3 ans, il doit manger 5 à 3 fois par jour. Disons, une nourriture enrichie. Lorsque l'enfant souffre, par exemple, de la diarrhée, il faut lui donner beaucoup à boire pour remplacer les liquides qu'il perd à chaque selle. Vacciner les enfants, disons, la période, disons, la première année, vous faites tous les vaccins, ça va aider l'enfant, mais aussi vacciner aussi toutes les femmes en âge d'avoir des enfants contre les tétanos, ça va aider. Si un enfant tousse, respire beaucoup, plus rapidement que d'habitude, il faut se rendre dans un centre de santé rapidement, parce qu'à mon avis, c'est très grave. Mais aussi, il faut utiliser des latrines, parce que vous allez constater que beaucoup de maladies sont causées par des germes qui pénètrent par la bouche. On peut éviter cela en utilisant des latrines, en se lavant les mains avant avec du savon et de l'eau après avoir utilisé des latrines et avant de toucher des aliments, en évitant de contaminer la nourriture et l'eau.
Voilà, merci beaucoup Gandou. On vous laisse encore le temps, donc il y a beaucoup de choses à dire pour réduire le taux de mortalité qui est très élevé en RDC, particulièrement en milieu rural. Ben là, nous retenons que vous demandez à ce qu'il y ait un suivi correct d'abord du calendrier prophylaxique, du calendrier vaccinal du côté de la maman, et aussi que les personnes qui s'occupent de suivi d'une femme enceinte puissent être des personnes qualifiées. Et là, ça demande encore, ça s'appelle la question sur les infrastructures et qui accueillent toutes ces femmes enceintes ou ces femmes grosses. Et puis, vous demandez, vous sensibilisez les mamans pour un suivi de symptômes corrects, de consultation prénatale. Merci, Ngandou. Edgar, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Voilà, Edgar, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je pense que notre invité, beaucoup de nos auditeurs qui m'ont précédé, ont dit beaucoup de choses. Mais bon, la première cause, monsieur le journaliste, moi je pense que c'est d'abord la malnutrition. Et les responsabilités, là, vraiment, sont partagées. Il y a d'une part le gouvernement et d'autre part les parents. Cette malnutrition chez l'enfant commence depuis la vie intra-utérine, monsieur le journaliste. C'est-à-dire que les parents mangent mal. Et pas à ricocher, l'enfant aussi. Ce qui réduit sensiblement la capacité immunitaire de l'enfant à la naissance et l'expose à des infections néonatales, monsieur le journaliste. Et puis, la deuxième cause, c'est que moi j'appelle la négligence des parents, monsieur le journaliste. La plupart des parents traitent les enfants à domicile ou consultent les personnes qui n'ont pas qualité. Au lieu d'aller à l'hôpital pour faire des examens, connaître la cause de la maladie, on traite abusivement les enfants à la maison. Conséquence, on assiste à la parcours et la mort ensuite. Et pour appuyer ce que vous avez dit à l'introduction, là, monsieur Pétunel, je suis étudiant en médecine et j'ai fait mon travail de faire des cycles sur le tétanos néonatal à l'hôpital général de Canaan. Rien qu'à l'hôpital général, mais ça, pour d'autres centres hospitaliers, il y avait un taux très élevé de tétanos. Je n'ai pas les chiffres avec moi ici, mais j'avais constaté que le taux vraiment était très élevé de tétanos. Vous comprenez par là que les mamans ne suivent pas le calendrier vaccinal. Alors, pour passer aux propositions, pour ne pas prendre beaucoup de temps,
Allez-y.
Moi je propose qu'il y ait vraiment des séances de sensibilisation à l'égard des parents à plusieurs niveaux. À commencer par leur dire ce qu'ils doivent manger pendant la grossesse, parce qu'il y a, c'est pendant cette période-là que l'enfant est vraiment en train d'acquérir les bagages immunitaires qui peuvent lui permettre de faire face aux différentes infections. Et il y a aussi le problème d'allaitement, monsieur le journaliste. Respect ce type qu'on a parlé là par mes précédents, que nos mamans ne respectent pas souvent, alors que c'est très nécessaire pour l'enfant. Parce qu'il y a des éléments que l'enfant est en train d'acquérir à partir de lait maternel qu'il ne peut recevoir nulle part ailleurs qu'à assister, même pas lait maternel, monsieur le journaliste. Bon, la sensibilité, je veux aussi, comme toujours, notre gouvernement a une grande part de responsabilité là-dessus. Parce que nous demandons, bon, je demanderai à tout, allô?
Allez-y, allez-y, vous
avez... Oui, parce que nous demandons, il y a une résurgence de maladies qui étaient autrefois maîtrisées, alors il y a des séances de vaccination tout le temps. Mais c'est parce que nous remarquons que les vaccins ne sont pas bien gardés, ils arrivent aux destinataires déjà périmés, et parfois on assiste à des ruptures de stock. Bon, étant donné la multiplicité des vaccins que les enfants doivent recevoir en l'espace, comme l'a dit notre invité, oui. Cela fait que les parents oublient souvent l'horaire des vaccins, monsieur le journaliste. Alors je propose aussi que ça, en fait, à tous les personnels soignants, puissent chaque fois à la naissance d'un enfant enregistrer bien ses adresses pour que si peut-être les parents oublient d'amener les enfants à l'hôpital pour prendre les vaccins, que les personnels se chargent d'aller même à domicile pour administrer les vaccins aux enfants. Notre invité a aussi parlé de la... Vous avez dit que la mortalité est élevée à milieu rural, mais c'est parce que dans le milieu rural, c'est là où on trouve beaucoup de parents qui n'ont pas étudié. Je pense que l'étude aussi est liée aussi à...
Voilà.
Donc la manière que la maman va prendre soin de son enfant est liée aussi à son niveau d'études. Mais c'est
voilà.
Il y a beaucoup de facteurs qui sont associés pour ne pas prendre beaucoup de temps.
Merci.
Temps aux autres.
Merci Edgar. Donc nous retenons que les responsabilités sont partagées. Il y a une part la responsabilité du gouvernement et d'autre part les parents qui sont censés de bien suivre l'alimentation de la maman qui est grosse pendant la grossesse, donc la femme qui est pendant la grossesse, et aussi ça pourrait permettre à l'enfant de se mettre à l'abri de certaines maladies. Et vous avez évoqué la question sur la sensibilisation qui doit être intensifiée au niveau de provinces et surtout en milieu rural où la femme, dans la plupart des cas, n'a pas étudié et ne s'est pas maîtrisée au fait le calendrier vaccinal et l'importance de ces molécules. Merci beaucoup Edgar. Étienne, vous êtes à Djungu, je ne sais pas, Djungu ou à Djungu. Étienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Djungu?
Bon, je suis à Djungu, plus précisément à l'université de Bahima Banya du Amandro.
Ok. Alors, Étienne, vous avez la parole.
Bon, j'aimerais dire concernant la mortalité, ici au milieu rural, pour trouver un centre de santé, pour aller vacciner votre enfant, vraiment c'est très grave. Il y a vraiment notre centre de santé, ça se situe au moins que 50 km de l'autre. Alors au milieu rural, pour aller vacciner les enfants, vraiment les mamans se découragent très, 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 très souvent, en tout cas concernant ça. Et alors, on n'aura pas de moyens d'éviter ça. S'il y a un moyen concernant le gouvernement, qu'il puisse aller voir ces distances-là pour aller créer une autre centre de santé pour peut-être éliminer ça, on aura des solutions pour ça. Et concernant les vaccinations pour les polio, vraiment, en tout cas, il y a moins d'argent qui travaillent par site. Vraiment, en tout cas, d'atteindre tout cela, c'est un peu difficile pour cela. Nous, les populations, nous crions beaucoup vraiment, en tout cas, sur ça.
Merci beaucoup, Étienne. Jean-Cy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jean-Cy. Jean-Cy, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Jean-Cy, vous avez suivi tout à l'heure, vos prédécesseurs, dans la majeure partie, ont évoqué le manque d'information et aussi le manque de suivi correctement du calendrier vaccinal. Et Étienne qui vient d'ajouter un élément sur les centres de santé qui sont loin des populations, donc une femme enceinte ne sait pas avoir accès facilement au centre de santé pour la consultation prénatale et c'est un problème très très sérieux, donc le problème des distances, et il demande à ce que le gouvernement travaille dans ce projet de construction des infrastructures hospitalières afin de rapprocher davantage la population et les centres de santé. Et Jean-Cy, vous avez la parole.
Ça va, merci beaucoup. Le problème, et je voulais dire, beaucoup d'erreurs on donne à notre ministre des Affaires sociales. Quel est le travail de notre ministre? Moi, je suis en train de voir par rapport aussi à Lubumbashi, beaucoup des enfants qui sont en train de mourir comme des bêtes en cours de route.
Oui, Jean-Cy, Vous avez parlé du ministère des Affaires Sociales. Vous voulez plutôt parler du ministère de la Santé.
Oui, ça va. Excusez d'abord.
Ben, allez-y.
Je ne vois pas notre ministre de la Santé, ce qu'il fait. Bon, d'abord, ici chez nous au Congo. Je suis en train de dire mes enfants-là, de rire les chèques. Il n'a pas même les moyens. Il est en train de mourir comme ça en cours de route. S'il est en train de mourir en cours de route, s'il vole, ce n'est que les ministres et les autorités qui passent sur les télés
qu'on avait
arrêté une personne.
Oui, Jean-Cy, nous parlons des enfants des 0 à 5 ans.
Oui, qui connaissent.
Oui, voilà, allez-y rapidement. Parce que quand vous prenez trop de temps, on risque de. Il y a d'autres personnes qui attendent. Allez-y droit au but. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les taux de mortalité qui est très élevé en RDC et particulièrement en milieu rural? Je parle bien des mortalités des enfants.
Pour réduire. Il faut d'abord mettre beaucoup de centres de santé, même au village, partout, par-ci, par-là. Encore, les aliments qu'on achète, qui est très cher, il faut d'abord qu'ils soient diminués. C'est ça. Qu'on achète, si on achète un méca de maïs à 700 francs, il faut le méca qui vient à 300 francs. C'est que les parents vont nourrir les enfants bien, et pour cela, les enfants vont grandir dans bonne santé. J'ai une question de savoir, et je voulais poser à notre invité. Si la maman a mis au monde quelques jours, la maman a décédé, comment on puisse protéger cet enfant pour qu'il ne soit pas mourir?
Mais voilà, alors donc vous évoquez des problèmes, la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Au même moment, donc, je crois que notre invité pourrait regarder la question. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé. Nous terminons cette première série avec Rachel qui est à Isiro. Rachel, bonjour.
Bonjour.
Oui, Rachel, vous avez la parole.
Oui, moi je voulais dire que concernant la vaccination, premièrement, il y a souvent les négligences. Les gens négligent quand ils veulent vacciner les enfants. Et là, j'ai vu qu'on sensibilisait les jeunes filles, les jeunes garçons, mais ils n'ont pas l'expérience concernant la vaccination. On les envoie dans des villages pour aller vacciner les enfants. Et comme ils ne sont pas vaccinés les enfants, ils vont faire n'importe quoi là-bas. Mais moi, je dirais que au moins qu'on fasse, on crée avant de vacciner les enfants, on crée des centres de santé partout, surtout au niveau du village. On fait des centres de santé là-bas, au moins que les enfants soient vaccinés au niveau de l'hôpital, pas au niveau du séjour.
Merci beaucoup Rachel. Donc là vous évoquez un problème de la qualification des infirmiers ou des agents, des prestataires des centres de santé qui travaillent pour les cas d'espèce, donc les cas de vaccination à travers le pays. Donc vous demandez à ce qu'il y ait vraiment des personnes qualifiées pour faire cet exercice. Merci Rachel, 081 890 43 39, pour participer à ces débats.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit: les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Docteur Eli, vous êtes avec nous, vous êtes le coordonnateur santé chez l'ONG World Vision. Vous avez suivi tour à tour Mathieu, Ngandou, Edgar, Étienne et Jean-Cy. Au fait, ils ont posé quelques inquiétudes hein, par rapport à la lutte contre cette mortalité qui est très élevée en RDC, et particulièrement en milieu rural. Mais il y a deux points qui sont très importants, notamment la responsabilité des uns et des autres. Edgar a évoqué la responsabilité d'abord du gouvernement congolais qui est censé au fait construire des centres de santé qui doivent être le plus proche des populations pour éviter à ce que les femmes en milieu rural puissent se décourager et qu'ils aient facilement accès aux consultations prénatales. Et la responsabilité, c'est aussi du côté des parents qui doivent assurer une bonne alimentation pendant la période de grossesse hein, et aussi que la maman puisse protéger l'enfant qui est dans qui bon, en fait l'enfant qui doit naître prochainement. Donc sinon si l'alimentation n'est pas équilibrée, l'enfant aura aussi des problèmes de malnutrition. Voilà, docteur, vous ramassez et que répondez-vous aux uns et aux autres?
Oui, merci beaucoup pour les différentes interventions que nous avons suivies avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion. vais répondre peut-être en trois points. La première chose, c'est que quand nous recoupons les différentes causes de mortalité, il y a en gros trois grands facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur d'ignorance. Donc les gens n'ont pas l'information qu'il faut. Alors le deuxième facteur, c'est un facteur de négligence. C'est-à-dire les gens sont informés mais ne veulent pas prendre les actions qui s'imposent. Et le troisième facteur, c'est un facteur d'incapacité. Alors, incapacité ici, entendu au sens le plus large, c'est-à-dire même la possibilité d'accéder aux soins de santé, c'est-à-dire que du côté des prestataires aussi, l'incapacité de donner les soins qu'il faut, l'incapacité au centre de santé d'avoir les équipements qu'il faut, et à un moment aussi, l'incapacité des décideurs, que ce soit des politiques ou des techniques, il y a une certaine incapacité. Donc, en gros, ce sont les trois grands facteurs qui sont en train de conduire à la mortalité. Donc, l'ignorance, la négligence et l'incapacité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas parler de la mortalité infantile sans parler de la mortalité, sans la lier avec la mortalité maternelle. En fait, généralement, les deux sont liés. C'est ainsi que, en tant que World Vision, nous avons une réponse que nous appelons le 7-11, donc c'est un ensemble de 7 interventions qu'il faudrait faire chez la mère et 11 interventions à faire chez l'enfant. Donc c'est une stratégie globale qu'on appelle le 7-11, mais il ne fait pas le cadre de cette émission. Peut-être que ultérieurement,
oui, ultérieurement, on peut revenir sur ça. On aura
l'occasion de passer en revue les 7 pratiques fondamentales chez la mère et les 11 pratiques fondamentales chez l'enfant qui peuvent réduire la mortalité de manière drastique. Alors, en ce qui concerne les responsabilités, il est tout à fait vrai que les responsabilités sont partagées. Il y a les responsabilités du gouvernement, il y a les responsabilités des décideurs, mais il y a aussi les responsabilités des
populations
et des parents. Mais ce que nous voulons stigmatiser, c'est que il n'est pas non plus correct de ne rester qu'en train de pointer le gouvernement, alors que là où nous pouvons faire des petites choses qui ne demandent pas que le gouvernement vienne pour intervenir. Donc nous disons et nous redisons qu'il est possible de réduire la mortalité avec des actions, avec des petits gestes, mais qui sont tout à fait salutaires.
Oui, mais docteur, parce que il y avait l'inquiétude de notre ami Edgar de Kananga,
oui.
qui est revenu sur le choix d'ailleurs. Non, c'est Étienne Pitot de Djougou qui a dit le choix des prestataires, des gens qui sont commis à la campagne de vaccination. Dans bien des cas, ce sont des gens qui ne sont pas qualifiés et aussi qui ne s'y connaissent pas. Et c'est ce qui fait que le résultat souvent n'est pas celui escompté. Ça c'est d'après Étienne, c'est ce qui c'est par rapport à la réalité qui se passe au niveau des Djougou. On remarque qu'au niveau en milieu rural, il y a un peu une certaine négligence quant au choix de ceux qui doivent assurer la campagne de vaccination. Mais en milieu urbain, les problèmes ne se posent pas parce que nous voyons quand même il y a quand même des infirmiers qui sont qualifiés qui font des porte à porte.
Oui, Étienne a tout à fait raison. Mais au fait, il faudrait considérer que la campagne elle-même, c'est vraiment un pis-aller, c'est seulement une alternative. En réalité, dans un système qui fonctionnerait normalement, on ne devrait même pas avoir des campagnes de vaccination. On devrait plutôt avoir plus la vaccination de routine, c'est-à-dire les enfants naissent et suivent leur calendrier vaccinal dans les centres de santé. Ça, c'est un système qui fonctionnerait normalement. Mais si nous en sommes arrivés à organiser des campagnes, le gouvernement et ses différents partenaires, c'est parce que le système de routine ne marche pas. Et le système de routine ne marche pas parfois parce que les parents ne veulent pas amener les enfants ou ont des difficultés pour amener les enfants.
Oui, mais en milieu rural, il y a aussi des problèmes d'accessibilité et la distance aussi entre les centres de santé et la population.
Oui, cela est vrai, mais cela ne devrait pas être un prétexte parce que souvent, il arrive que les champs soient plus éloignés même que les centres de santé. Au champ, on peut aller, mais au centre de santé, ça devient...
Ça devient toujours un problème.
Oui, donc c'est un problème, une fois de plus, de communication, d'information. Tant que le parent n'est pas convaincu que le geste d'amener l'enfant à l'hôpital pour, au centre de santé pour la vaccination est sanitaire, donc pour lui, ça ne sera pas une priorité. Donc, une fois de plus, pour des parents qui ont compris le rôle que joue le vaccin dans la vie de son enfant, il en ferait une véritable priorité. Mais tant qu'il n'a pas compris, il peut reléguer ça aux accessoires ou aux activités non prioritaires. Certes, nous reconnaissons aussi qu'il arrive que les parents se rendent au centre de santé, que les vaccins ne soient pas disponibles. Oui. C'est là que nous disons que la responsabilité est partagée. Les parents doivent amener les enfants à l'hôpital, mais il faudrait que quand ils amènent les enfants à l'hôpital, qu'ils trouvent aussi la qualité des services. C'est-à-dire, prouvent que l'hôpital a les intrants qu'il faut et que les personnes commises à ce travail sont suffisamment outillées en termes de connaissances et en termes de compétences. Donc, là, nous disons que c'est vrai. Les responsabilités sont partagées, mais est-ce que les parents ont fait d'abord leur part, celle d'amener l'enfant au centre de santé, et arriver au centre de santé qui n'ont pas trouvé les intrants qu'il faut ou que le personnel n'est pas qualifié, ce serait alors là que nous rejetterions la balle dans le
camp. Oui, il y a quelqu'un qui a évoqué également la question sur la conservation des vaccins. Hein, et l'autre qui est revenu est d'ailleurs sur les grossesses, la limite des grossesses. Hein, en fait, lui parle de 4 grossesses. Si on pouvait s'arrêter là, et ça protégerait la santé de reproduction.
Oui, par rapport à l'espacement des naissances, ça c'est tout un domaine. Nous n'avions pas voulu développer ça ici, mais si vous nous en donnez l'opportunité...
Non, juste répondre à son inquiétude.
C'était le 7-11, et dans le 7-11, cela a aussi une grande place. Nous disons des grossesses désirables et acceptées et planifiées. Mm-hmm. Nous pourrons en parler en long.
Conservation des vaccins.
Oui. L'autre question, c'était...
La conservation des vaccins.
Oui, la conservation des vaccins pourrait être aussi une question. C'est quand même complexe, parce que nous savons que quand la campagne de vaccination a lieu, le partenaire qui finance la campagne de vaccination donne tous les moyens pour que la campagne se réalise dans les meilleures conditions, les plus optimales, c'est-à-dire que les matériels de la chaîne de froid, les frigos et le carburant qu'il faut est rendu disponible pour cela. Donc, on s'assure à tous les niveaux que ces choses soient présentes. Mais s'il se fait qu'il y a un problème de conservation, alors là, c'est une cause locale. Il faudrait voir localement qui était responsable de la gestion de la chaîne de froid et a-t-il fait correctement son travail. Et ça, c'est un problème maintenant de conscience. Donc, il y a deux choses. La conscience et la capacité. La capacité de le faire, mais on peut avoir la capacité, mais si on est inconscient de ce qu'on fait...
Le résultat sera toujours bien.
Donc ça, ce n'est pas un problème global, c'est un problème à traiter localement pour identifier les goulots d'étranglement et quelles sont les causes de manque de conservation optimale des vaccins.
Voilà, on va prendre une autre série des auditeurs. Victor, qui est à Lubumbashi, et Blaise à Mungwalu, dans la province orientale, à Bunia donc. Victor, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Merci, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Victor Moufoya depuis Lubumbashi.
Voilà, Victor, comment vous réagissez? La question aujourd'hui, que faut-il faire pour lutter contre la mortalité très élevée en RDC, la mortalité des enfants de 0 à 5 ans, très élevée en RDC et particulièrement en milieu rural?
Oui, monsieur le journaliste, c'est tout à fait. En milieu rural, ça s'explique bien. Il y a des centres de santé, bien sûr, mais il faut voir la façon dont ces centres de santé sont équipés. Le centre de santé en milieu rural, c'est vraiment... ce ne sont pas bien équipés. C'est ainsi que vous trouverez même dans des structures de référence, dans un hôpital de référence, pour avoir même les thermomètres. C'est tout à fait un problème. Voilà un peu ce qui peut aussi contribuer à la mortalité infanto-juvénile.
Voilà, donc nous retenons que le service qu'offre ce centre laisse à désirer selon vous, et parce que dans la plupart des structures de santé des références en milieu rural, on remarque qu'il y a quand même des médicaments qui manquent et les gens n'ont pas accès aux soins de santé primaires. Merci Victor. Blaise, vous êtes à Mongualou. Blaise, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Blaise, vous avez la parole.
Ok, vraiment, c'est un sujet intéressant. Pour moi, pour lutter contre la mortalité infantile au Congo.
Oui, Blaise, on vous entend pas. On vous entend pas. Si vous pouvez peut-être élever un peu votre voix. La dynamiser, ça serait. Oui.
Pour lutter contre la mortalité infantile, il faut vraiment lutter contre la malaria. Maintenant, pour lutter contre la malaria, ça demande vraiment la participation de tous. Parce que, par exemple, ici, dans des zones de santé rurale, ici, il y a par exemple le médecin qui envoie un lot de moustiquaires pour partager à la population rurale. Mais une chose grave, vous allez trouver que ces moustiquaires sont détournés soit au niveau du district sanitaire, par le médecin du district sanitaire, ou soit par le médecin directeur, ça n'est pas là où se trouve la population.
Donc, Blaise,
là, la malaria, là, ça provoque encore l'anémie, et vous allez trouver qu'il y a un peu élevé de la mortalité. Alors moi, j'aurais suggéré comme ça. Comme dans des centres de santé, il y a quand même des infirmiers qualifiés, il y a quand même des infirmiers A1 qui sont là. Est-ce qu'on ne peut pas permettre à ces infirmiers qualifiés, les infirmiers A1, de classifier quand même les enfants dans des milieux ruraux? Parce qu'il y a des cas des anémies qui se retrouvent, mais la zone de santé est loin, là où se trouve quand même le médecin. Mais il n'y a pas moyen aussi de classifier parce qu'il n'y a pas de risque. Et si ça pouvait être mieux que s'il y a un cas de l'anémie dans un centre de santé et qu'il y a un infirmier compétent, et qu'il y a quand même un bon labo qui pourrait faire des arrêts de labo pour détecter d'autres maladies qui sont contre à la santé. Là, les infirmiers pourraient quand même transfuser les enfants pour chercher à sauver la vie des enfants. Je pense que cela a été vraiment ma contribution.
Voilà, merci beaucoup Blaise. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Raphaël. Oui, Raphaël, vous êtes avec nous?
Oui, allô?
Oui, Raphaël, vous avez la parole.
Oui, c'est Raphaël, tout le monde de Lubumbashi. Oui, je voulais demander à notre invité, est-ce qu'il y a une organisation au niveau du ministère de la Santé pour que chaque fois, lorsqu'on va de vacciner les enfants, ils puissent traiter les vaccins pour savoir s'il y a des microbes, parce qu'il y a certains enfants qui, après avoir été vaccinés, ils souffrent de certaines maladies comme le fièvre et tout ça. Est-ce qu'ils ont organisé cela?
Voilà, merci. Parce qu'il s'agit là d'une question directe, docteur Eli, Raphaël évoque la question sur la qualité même des vaccins. Comment réagissez-vous, docteur? Oui, docteur Eli.
Le ministère de la Santé n'est pas une petite chose et ne peut pas prendre le risque d'accepter que des vaccins de mauvaise qualité soient véhiculés sur la République. Donc, il y a un département qui s'occupe de l'assurance qualité et plusieurs tests sont faits, même en dehors du pays, avant que les vaccins soient acceptés. Et quand ils sont acceptés, ce n'est que quand ils ont été certifiés inoffensifs qu'ils peuvent être acceptés et véhiculés. Néanmoins, il est établi que la réaction, parce qu'en réalité, la plupart des vaccins que nous avons, c'est soit des antigènes qu'on a neutralisés, soit des microbes antigènes. Quand pareille situation arrive, il est important de rentrer vers le centre de santé qui a initié la vaccination, parce que le centre de santé a été informé sur le type des réactions secondaires ou des types des effets qui peuvent, ce sont des effets connexes, qui peuvent accompagner la vaccination. Alors, l'infirmier qui est outillé en cela, connaît aussi quelle est la conduite à tenir en tel cas. Et il peut éventuellement aussi différencier l'effet secondaire lié au vaccin et une toute autre maladie. Donc, si pareil cas arrive, nous ne disons pas que c'est impossible que ça arrive, il y a des cas pareils qui sont répertoriés, il est important de repartir au centre de santé pour une confirmation que c'est un effet lié au vaccin ou c'est autre chose. Et si c'est un effet lié au vaccin, l'infirmier est outillé pour la meilleure conduite à tenir. Voilà. Donc les vaccins sont toujours vérifiés avant leur usage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter sans qu'il y ait un contrôle préalable. Et en dehors du ministère de la Santé lui-même, il y a aussi l'Office de contrôle, l'OCC, qui a aussi des laboratoires équipés qui font ils peuvent collecter quelques vaccins, quelques échantillons pour en analyser la nature et donner l'accord d'usage. Voilà.
Voilà, merci docteur. Nous prenons le dernier auditeur du jour, Patrick, qui est à Lubumbashi. Bonjour Patrick.
Bonjour, merci monsieur le journaliste. Bonjour à notre sujet.
Voilà, vous avez la parole Patrick.
Oui, premièrement, je voulais présenter ma désolation parce qu'il y a un problème apparemment avec la connexion. Ça fait longtemps que j'ai commencé à appeler.
Oui, Patrick, c'est pourquoi nous allons vous demander de dynamiser un peu votre voix parce que là, on vous saisit à peine, on ne comprend pas ce que vous dites là.
Bon, ça va. J'ai une intervention en rapport avec notre sujet. Mon intervention est à ce niveau. Notre invité vient d'évoquer les causes de la mortalité infantile, entre autres la cité l'ignorance, la négligence et l'incapacité. Moi, je proposerais ceci, parce que par rapport à tout ce que nos auditeurs viennent d'évoquer là, les propositions, moi, j'ai ajouté que les Congolais se prennent en charge. Soit nous avons les intellectuels dans le domaine de maîtrise, qui peuvent être capables de créer des structures associatives pour divulguer l'information, pour attirer une formation aux populations rurales, comme on l'avait dit, et afin d'éviter la mortalité infantile comme nous l'avons dit. Parce que nous voyons que la plupart des cas enregistrés sont à l'ignorance, comme vous l'avez dit, sont liés à l'incapacité, et il faut que il y ait des structures associatives qui sont capables de former, de descendre sur le terrain et former la population. Heureusement, notre invité, il est chargé du domaine sanitaire dans l'ONG.
L'ONG World Vision.
Oui,
l'ONG World Vision.
Ah, World Vision. Et je sais que je profite de l'occasion pour lui présenter et cette demande, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de structures qui ont cette envie d'encadrer la population, mais ils ne sont pas financés. Nous avons notre association de lutte contre la malnutrition aux enfants. Mais on a frappé des portes parce que par là, il n'y a pas de financement.
Voilà, donc, Patrick, merci beaucoup Patrick, on comprend votre souci. C'est vrai qu'il faut une sensibilisation dans ce niveau de la population pour qu'ils comprennent un peu les tenants et les aboutissants ou l'importance même de ces vaccins. Une approche qui peut aussi aider tant soit peu à réduire la mortalité très élevée en RDC et particulièrement en milieu rural. Docteur Elie, on va conclure avec vous, et surtout par rapport à cette dernière intervention.
Merci beaucoup. Je crois que nous disons pratiquement la même chose, que pour les choses que nous pouvons faire à notre niveau et qui ne demandent pas de grands moyens, il est temps qu'on le fasse. Et l'une de ces choses, c'est veiller à ce que l'information véhicule. L'une des choses que nous avons constaté, c'est que ceux qui ont l'information ne la véhiculent pas comme il faut et ils la gardent pour eux-mêmes. C'est ainsi que nous continuons à féliciter Radio Capi, qui s'évertue quand même autant soit peu de faire reculer les limites de l'ignorance. Alors, il serait bon que de telles émissions soient continuées et de manière durable pour atteindre le maximum de personnes. éventuellement aussi le faire en langue locale pour que les barrières liées au langage ou aux langues ne soient pas de mise.
Voilà, merci
donc,
docteur.
Nous vous encourageons pour cela et nous sommes dispo à venir avec plus de détails avec notre approche 7-11.
Voilà, on fera peut-être une émission avec vous autour de cette approche-là, pourquoi pas au Capi Service, qui apprennent à nos auditeurs beaucoup des choses par rapport à la question de santé. Merci beaucoup, docteur Eli Mukina. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur santé chez l'ONG World Vision. Et merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci également à tous d'avoir participé à ces débats. Merci aussi à Eric Sidiakala qui a assuré la mise en monde de cette émission. Titi Mputu et Lydie Kachala l'ont réalisé. Jir Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Cette émission est à réécouter sur www.radiocapi.net. Il a été décidé au cours du dernier Conseil de sécurité des Nations Unies de reconduire la résolution 2078 relative à l'interdiction des ventes et la livraison d'armes aux groupes armés actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo jusqu'en 2014. Parole aux auditeurs revient sur cette décision dans l'échange et partage qu'elle vous propose ce lundi 3 décembre 2012. La question du débat, pensez-vous que l'application de cette résolution aidera à mieux sécuriser cette partie du pays? Tenez déjà rendez-vous avec nous. Excellent début du week-end à tous et à très bientôt.
Radio Okapi.
Le journal, la belle Pongo Massimango.
Okapi.